sa pertinence. Je pense que Manitou n'était pas si profond que cela. Je lui porte une grande vénération car il a été mon maître quand il était à Paris. Il a apporté à ma génération et aux générations voisines un orgueil juif qui était l'antithèse idéale de l'humiliation dans laquelle nous avions grandi depuis notre âge de raison. Quand j'ai demandé à mes parents pourquoi on déménage si souvent, ils m'ont répondu parce qu'on veut nous tuer. Et je leur ai dit pourquoi on veut nous tuer. Ils ont dit nous ne savons pas, mais c'est comme ça. Donc je me ressens comme un rescapé. Toujours d'ailleurs. Et en fait, je ne comprends pas tout ça, l'antisémitisme. Je comprends très bien les origines catholiques, chrétiennes, les origines philosophiques, des origines. Mais tout ça, c'est de l'érudition. Ça n'est pas une hostilité existentielle meurtrière. Or, je pense que c'est ça que visait Manitou. Un juif, c'est un condamné. Un hébreu, c'est un frère d'Abraham. D'ailleurs, même pire qu'un frère, puisque tel que vous l'avez décrit, c'est un ancêtre d'Abraham. Auquel cas, c'est fini la condamnation à mort. Il est debout, alors que le juif rampait. Voilà à peu près comment je conçois cette évolution. Je ne l'ai jamais accompagné dans ce mouvement. Je m'amusais à lui dire, à t'entendre citer l'actualité israélienne, je crois que tu confonds à Arrête et le prophète Isaïe. C'est-à-dire que tu donnes une force historique, métaphysique, formidablement substantielle à un sympathique accident de l'histoire. Mais quand on regarde comment est bricolé, je suis professeur de gestion, donc le choix des rites, le choix des règlements, le choix des manières de faire est capital dans l'idée que chacun se fait son identité. Et quand je contemple la réalité quotidienne israélienne, je la considère comme intelligente, sans plus, mais certainement pas comme sublime métaphysiquement pour fabriquer un nouvel être qui serait un hébreu moderne. Voilà, si vous voulez, quelle est ma position par rapport à ceci. Et je pense que sa position tient assez d'ailleurs parallèle à celle de Lévinas par rapport à l'État. Lévinas avait une vénération de l'État caractéristique d'un juif russe. C'est-à-dire le tsar, ça au moins, ça existe, il nous persécute, mais ça a de la gueule, si j'ose dire. Manitou, de même, juif d'Oran, avec Paris écrasant, pas très facile à comprendre d'ailleurs. Il a trouvé en devenant israélien, il disait quand même, je ne me suis jamais senti aussi français que depuis que je suis israélien. Donc quand même, ça faisait un peu, comme on dit dans les bateaux à voile, dans sa conviction qu'il était devenu un véritable hébreu. Excusez de ma longueur. Merci.
Peut-être vous qui êtes installé ici, peut-être vous pouvez dire ce que vous venez de dire, tandis que les disciples de Manitou qui sont en Israël, eux sont persuadés que la trajectoire que Manitou a tracée depuis Abraham, et notamment en tout cas depuis l'exil, jusqu'à la fin de l'exil, comme il disait toujours, nous sommes au début de la de la période du troisième temple, donc la fin de l'exil, pour eux, c'est quelque chose qu'ils vivent en disant « je suis hébreu d'origine juive ». Et ils ne veulent pas entendre que, avant Manitou, il y a quelqu'un qui était bien installé dans la société israélienne et qui avait émis en tout cas cette idée de Ivri, mais de Ivri en tant que rompant avec l'histoire juive et rompant avec l'histoire du sionisme. En tout cas, il avait une conception du sionisme qui était totalement différente de celle du mouvement sioniste, que ce soit celui de Herzl ou que ce soit celui du sionisme socialisme ou que ce soit celui du révisionnisme de Jabotinsky. Mais je reste en tout cas encore plein d'étonnement et même plus que de l'étonnement quand je ne peux pas m'empêcher en tout cas de mettre ces deux concepts un à côté de l'autre, même s'il y a une différence, Manitou insistant sur le fait de dire Mimotza Yehudi et Ivri Mimotza Yehudi. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement brillant et riche et à creuser dans bien des directions qu'il indique. J'avais envie de... Bon, on est quand même un séminaire sur la politique juive et j'avais un peu envie de vous demander de prolonger votre réflexion pour savoir au fond qu'est-ce que cette identité hébraïque ou cette hébraïté a pour comme conséquence politique. Bon, j'ai lu sur le... Je me suis aussi intéressé, mais pas à votre niveau, au mouvement cananéen. Il y avait un livre de Yohanan Shavit là-dessus qui faisait l'histoire de ce mouvement, qui d'ailleurs le comparait à des mouvements de la région, le philistinisme au Liban ou le pharaonisme en Égypte, qui cherchaient justement de la même façon à découvrir une origine ou à prôner un retour à des origines pré-islamiques ou pré-coloniales. Il y a aussi tout un contenu de rupture, vous l'avez dit, avec l'ère coloniale. Mais alors, quelle politique, au fond, hébraïque ou juive, ce mouvement a lieu? Bon, vous avez évoqué le Léhi, encore... Je pense pas que l'attachement au cananéisme ait été partagé par tous les membres. Enfin,
non, mais c'est là qu'ils
recrutaient. Oui, c'est là qu'ils recrutaient, absolument. Mais c'était pas leur idéologie tout à fait. Bon, il restait quand même des sionistes. Mais, j'ai eu l'impression, mais vous me corrigerez, qu'il y a eu un renouveau d'intérêt pour le cananéisme qui était complètement oublié, je dirais à peu près dans les années 90. Vous avez évoqué le quotidien Haaretz qui effectivement régulièrement fait des articles sur Ratoche, sur les Cananéens, etc. Et effectivement, c'était lié à l'éruption à des relectures de l'histoire d'Israël chez ceux qu'on appelle les nouveaux historiens. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de nous définir un peu plus la politique, ce qu'a pu devenir la politique cananéenne.
Alors, merci beaucoup. Moi, je suis arrivé en Israël il y a 8 ans et je me suis
installé en Israël. Voilà, j'ai posé mes valises et j'ai enseigné pendant 5 ans à l'université hébraïque, et puis il y a eu une baisse drastique des étudiants en sciences, comme il l'appelle là-bas, Mataya Ruach, en sciences de l'esprit. Et puis, on m'a dit, voilà, vous êtes arrivé le dernier, vous devez partir parce qu'on n'a plus d'étudiants. Et pendant les 5 ans où j'ai enseigné à l'université hébraïque, je me rendais compte d'une chose. On m'a demandé d'enseigner les philosophes juifs français, et donc quand je transmettais, il y avait parmi le public qui venait suivre mes cours, il y avait des gens qui étaient étonnés d'abord de ce type de discours. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir ce type de discours, le discours qui était tenu sur la Bible ou sur le judaïsme en général ou sur les philosophies juives. C'était un discours prussien, c'était un discours Wissenschaftsdicht, c'était un discours scientifique, alors que là, ils avaient l'impression qu'il y avait des choses qui se passaient, mais ils résistaient en même temps, parce que ce n'était pas leur manière d'avancer dans l'étude des philosophes. Et un jour, j'ai demandé, je me suis dit, j'ai senti cela, expliquez-moi pourquoi. Et alors, on m'a dit tout de suite et tout de go, parce que vous êtes juifs et nous, on est israéliens. Et donc là, il y a la rupture. C'est-à-dire, même si on est dans une même institution, et même si on débat de concepts qui sont des concepts acceptables par les uns et rejetables par d'autres, comme dans toute démocratie, eh bien, ils maintiennent, et pas seulement ils maintiennent, ils creusent, parce que c'est ce que j'ai compris ensuite, ils creusent encore plus ce sillon ou ce fossé entre judéité, entre identité juive et identité israélienne. Et là, ça m'a poussé, en tout cas, à essayer de découvrir ce qu'était que cette israéliout, d'accord ? Et donc, il y a là, dans ce conflit, d'après moi, tous les germes qui divisent la société israélienne du point de vue politique. Tous. Que ce soit l'idéologie de la rupture ou l'idéologie du retour, que ce soit la famille en tant que cellule familiale ou la famille recomposée ou la famille éclatée, que ce soit le nom patronymique qu'on change ou qu'on nous demande de changer, maintenant plus, mais en tout cas qu'on nous demandait de changer ou qu'on demandait à mes parents de changer quand ils sont arrivés là-bas, d'accord ? Tout cela fait partie de ce qu'on appelle le nouveau juif. Et ça, même pas le nouveau juif, ça c'est Anita Shapira qui dit nouveau juif, mais c'est l'israélien. Et l'israélien me le dit et me le jette à la figure tout le temps. Oui, mais ça, c'est toi tu es juif, nous on est autre chose. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette notion d'identité, cette question de l'identité, il y aura le fossé se creusera de plus en plus, en tout cas du point de vue politique et social. Voilà.
Je m'excuse de reprendre la parole, mais je pense que cette obstination à décrire une identité israélienne qui serait d'ordre hébraïque repose sur une faiblesse irrémédiable du judaïsme qui n'a pas de théorie politique. Pour cela, deux raisons. D'abord, parce que pendant 2 millénaires, les Juifs n'ont pas eu d'État, et pourtant, ils ont une identité collective qui est bien plus forte que les identités nationales. Définir un Français par les temps qui courent, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre quelqu'un de Brest, de Lille et de Marseille. Leurs premières évidences ne sont pas les mêmes, leur paysage n'est pas le même, leur lien à l'État n'est pas le même. Et pourtant, les Juifs ont eu une identité collective inoxydable. Elle a traversé des siècles, à travers des tentatives de destruction, jusqu'à l'extrémité abominable de la Shoah, et en un claquement de doigts, ils se sont retrouvés ensemble, sans constitution. Il faut quand même voir que l'État d'Israël est un extraordinaire bricolage des meilleures recettes de l'Occident moderne. Il n'y a qu'un seul Parlement, ce qui est un peu curieux, parce que la plupart des pays qui ont servi de modèle en ont deux. Pour une raison qui me paraît évidente, c'est que quand il y a deux Parlements, il y en a un qui représente le peuple et l'autre qui représente les régions. Or, en Israël, il n'y a pas encore de régions. Il y a des identités fortes, mais caractérisées plutôt par les anecdotes que par des sources qui justifieraient de leur donner une voie démocratique. Je crois que les Juifs n'ont pas d'État. Ils ont eu des rois. Ils ont eu le désert et Moshe Rabbeinu. Ça, c'est sûr. Mais ça règne sur quoi, ça? Sur la vie de l'intime. L'intime de la famille, l'intime de l'individu, à la rigueur, l'intime de la Keïla, comme dans les exils des siècles. Mais c'est pour régler les problèmes de tous les jours. Mais sur l'élaboration de la loi, c'est pas la peine, on s'en occupe déjà. Et c'est peu de le dire. Donc, je pense que Manitou invente un État complètement hors sol. Je suis aussi fort comme hébreu qu'un anglais est fort comme anglais. D'accord, très bien, je ne baisse pas les yeux. Mais c'est complètement artificiel. Parce que l'anglais, il a derrière lui des centaines d'années de monarchie, et la monarchie est toujours là. Le juif, qu'est-ce qu'il a? La Torah. Vous ne trouverez dans la Torah pratiquement rien sur l'État, sauf des attributs de la puissance publique que sont les impôts. Les dîmes, la Torouma, etc. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas du tout du côté d'une puissance politique que ça pointe. C'est du côté du temple. Alors là, d'accord. De sorte que je pense que Manitou fabrique un hybride qui n'est pas viable. C'est l'orgueil national composé avec la Torah. Il n'y a pas. L'orgueil du juif n'est pas de l'ordre de l'orgueil national.
Est-ce que vous considérez le Mishneh Torah et le guide comme faisant partie de la tradition et donc il y a là une doctrine politique, qu'on le veuille ou pas, même si c'est une doctrine politique qu'il faut aménager, qu'il faut essayer, en tout cas d'aménager pour le 20e siècle, ou pour le 21e siècle.
Au cœur du Mishneh Torah, il n'y a pas un État, il y a un temple. Disparu, certes. Disparu, mais néanmoins.
Non, mais.
Vous parlez de Mishneh Torah de Rambam.
Oui, exactement. Dans les Hilkhot Melachim, il y a là, en tout cas, et même dans le guide, il y a là Tikkun HaGuf et Tikkun HaNefesh. Il y a là une doctrine politique qui aurait pu être réélaborée et qui aurait pu servir. Je me rappelle lorsque on discutait en Israël d'un État juif et démocratique, Certains ont dit, rien ne nous empêche d'avoir un roi, mais qui fonctionnerait comme la reine d'Angleterre, qui aurait un titre, une autorité, mais qui n'aurait pas de fonction politique directe dans une démocratie. Ça serait une démocratie, ça serait une monarchie constitutionnelle.
C'est à peu près le portrait de Josué, ça.
Oui, oui, c'est possible, mais en tout cas, là, il y a, aujourd'hui, on est en train de remettre en cause même la déclaration d'indépendance qui, elle, porte plusieurs fois le nom de patrie du peuple juif, etc., etc. On est dans, comme j'ai essayé de le dire, on est dans une période qui est où on essaye d'imposer les concepts de post-sionisme, de post-judaïsme. On remet en cause la loi du retour, on remet en cause, il y a certains, vous savez, quand, même du point de vue de la langue hébraïque, quand on parle, il y a eu un arrêté il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être même pas un mois, un arrêté de la Cour suprême
où il y a eu des personnes oui, de la Cour suprême israélienne où il y a eu des personnes qui se sont qui étaient réfugiées mais qui étaient réfugiées disons dans la société israélienne mais qui n'avaient pas fait toutes les démarches et qu'on voulait renvoyer dans leur pays au Soudan. Et ils ont déposé, quelqu'un a déposé pour eux en tout cas une question à la Cour suprême, si on rentre avec nos deux petites filles, elles vont subir l'excision et donc on vous demande, c'est l'excision, c'est quelque chose qui porte atteinte au corps de ces deux petites filles, et donc on ne veut pas, on veut rester dans un pays où on ne fait pas, on ne pratique pas l'excision. Vous savez comment on a traduit excision en hébreu? Dites-moi. Nous?
Brit Mila.
Brit Nashim. Alors j'ai écrit. Oui, j'ai écrit à Moshe Baracher en lui disant comment est-ce possible de mettre du point de vue sémantique, d'accord, alors qu'il y a une levée de bouclier dans le monde entier parmi les juifs et les non-juifs en disant arrêtez de mutiler les corps des petits-enfants juifs, comment est-ce possible de mettre excision comme Brit Nashim? Je n'ai pas encore reçu de réponse du point de vue de... Mais je suis persuadé qu'ils vont faire quelque chose, même si l'usage, ce n'est pas d'aller toujours vers les mots hébreux que le Va'ad al-Lashon introduit dans la société israélienne. Mais c'était quand même... Quand j'ai écrit... Je vous ai fait passer, justement, quand j'ai écrit au sujet cette statue de Danziger, on m'a complètement coupé, transformé ce que j'ai lu. Donc, il y a là un grand, grand, grand problème. C'est pour ça que je dis que c'est un problème. On pense ici qu'on utilise des concepts abstraits, philosophiques, métaphysiques, et qui n'ont pas d'impact sur la société. Or, ils ont un impact sur la société, et c'est des enjeux qui sont des enjeux dont, à mon avis, les Israéliens ne prennent pas toute la mesure de ces enjeux. Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir créer, c'est quelque chose qui sera à la longue séparé du peuple juif de diaspora et qui vivra la vie que, voilà, c'est comme on disait avant, au début du mouvement sioniste, quand les Israéliens venaient en diaspora et qu'ils arrivaient à une synagogue et on leur demandait de monter à la Torah, ils ne savaient pas comment prendre cela, d'accord ? Et on disait c'était des goyim qui parlaient hébreu. Donc, voilà où on en est. Et je me suis demandé comment faire pour essayer d'éveiller en tout cas l'attention des gens autour de ces problèmes. Comme je n'ai pas de réseau d'amis qui sont dans les hautes sphères et que je peux écrire, je ne fais que qu'envoyer des lettres de lecteurs à Haaretz. Alors parfois c'est publié, parfois non, mais même quand c'est publié de manière à leur manière. Moi, la seule chose, c'est que je me dis que les Juifs qui sont arrivés du monde francophone ont une mission. Leur mission, c'est justement de venir en Israël et de faire et de transmettre ce que nous ont appris, eh bien, les grands maîtres que nous avons eus, Lévinas, Néer, Amado, Manitou. C'est ça qui peut faire entendre une autre voix, VOIX. Et je pense que si on peut faire entendre cette autre voix, alors on pourra essayer de débattre des questions fondamentales à ce moment-là. Et ce sont des questions, justement, des questions politiques, des questions d'organisation de la cité, des questions de l'espace public. Et c'est vrai, Claude Rivlin a raison de dire que je ne condamne pas totalement ce qu'on appelle les laïcs. Les religieux aussi ont leur part de responsabilité et elle est très grande aussi. Parce qu'ils n'ont pas su trouver le langage pour pouvoir justement débattre et discuter de ces questions qui sont des questions fondamentale pour nous et pour l'avenir d'Israël.
Moi, je vais juste faire une remarque sur Lieberman qui, quand même, reste très juif, il tient à la solidarité au dépit de sa laïcité.
Ah, Lieberman.
Oui, non. Il ne parle pas très bel hébreu.
Moi, je vois Lieberman comme quelqu'un qui se bat avec la politique politicienne, mais Lieberman ne voit pas plus loin, je crois, que peut-être qu'il voit plus loin, mais je ne pense pas qu'il soit capable de comprendre les enjeux au niveau philosophique et au niveau métaphysique.
Alors, je ne sais pas si la question sera très, très claire, c'est plus peut-être une invitation à poursuivre votre propos à partir de l'article de Yehuda Libus. Donc c'était un passage assez dense. Il semble l'analogie thématique a l'air très claire entre le passage de la Hydra Rabba et du Zohar et de Ratosh, mais est-ce que Libos va au-delà de cette analogie thématique? Et est-ce qu'il l'invite à reconsidérer justement la littérature de Ratosh sous un autre angle? Parce qu'il semblerait que si la finalité d'une part est d'avoir un discours justement poético-théologique à travers le Zohar sur ce que c'est que la restauration de la Shrina et en finir de l'autre côté sur une polarité Astarté et une hébraïcité qui viendrait d'un monde où la divinité était féminine, mère de la fertilité. On arrive quand même à deux mondes antinomiques complètement. Donc en quoi on peut... Voilà, la démarche de Libos paraît très intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette analogie thématique et réinjecter soit quelque chose dans Ratosh ou le...
Vous avez raison de poser cette question. Je me suis posé cette question.
Seulement, il faut dire que Libes vient d'un monde qui réintroduit le mythe dans l'histoire du peuple juif. D'accord ? Et cette réintroduction du mythe, nous savons, en tout cas, ceux qui ont étudié un peu la philosophie juive, notamment à partir de Hermann Cohen et de Rosenzweig et de Levinas, bien entendu, ils tiennent à distance le mythe. Pour Hermann Cohen, par exemple, eh bien, les prophètes luttent contre le mythe. Les prophètes ne sont... Libes ne peut pas faire autrement, puisqu'il vient justement du monde de la mystique et il vient du monde de la Kabbalah. Alors, il dit, justement, il faut réintroduire le mythe et il faut essayer juste de voir si on peut vivre, si on peut faire, au-delà de cette analogie thématique, si on peut justement tenir ensemble à la fois ce que dit Ratosh et à la fois ce que dit le Zohar. Et moi, ça me semble difficile à tenir du point de vue de la réflexion, mais peut-être parce que j'ai été très influencé par Levinas qui nous disait la Kabbale, eh bien, il faut la tenir à distance.
La démarche de Levinas, j'ai pas de réhabilité le mythe, il s'agit de réhabiliter les parts de la tradition.
Ah non, non, non. Lui, je vais vous dire, il arrive à un moment donné à dire, voilà, cette étude dont je vous ai parlé, elle est parue dans une revue, et puis ensuite, il l'a mis dans un livre, écoutez le titre du livre, Alilot Elohim, Hamitos HaYehudi, Masot Umehkarim. D'accord ? Intrigue de Dieu, le mythe juif, essai et recherche. Donc, pour lui, le mythe juif que la Kabbale a réintroduit, mais de manière presque... On le trouve dans chaque page et dans chaque, dans chaque corpus, dans tout le corpus, en tout cas, c'était quelque chose que Hermann Cohen, que un peu moins peut-être Rosenzweig, mais que Hermann Cohen, Levinas, tenait vraiment à distance et nous disait il ne faut même pas aller voir ce qui se passe de ce côté-là.
C'est là qu'il y a une actualité intellectuelle, justement, à réhabiliter ces formes de littérature de la tradition qui sont déconsidérées.
Oui, mais il faut pas oublier que celui qui a instauré cette science qui s'appelle la mystique juive, il tire à boulet rouge contre les philosophes. Scholem, c'est ce qu'il fait. Même si lui, il se dit philosophe, mais en tout cas, il dit il n'y a aucune essence juive, on ne peut pas la trouver, les philosophes se sont trompés, les philosophes juifs se sont trompés. J'avais de la sympathie pour Hermann Cohen, mais voilà.
Donc, c'est pourquoi son projet original, il est devenu historiographe.
Oui, mais justement, Lévinas dit de Scholem qu'il est un historiographe de la Kabbale, mais qu'il ne connaît pas, disons, ou qu'il n'arrive pas à déterminer ce que fera ou ce que fait un homme comme Moshe Hidel, qu'il appelle lui-même en tout cas une phénoménologie de la Kabbale dans Kabbalah New Perspective. Donc voilà où on en est. On est, et aujourd'hui, il manque, même en Israël, il manque quelqu'un qui pourrait peut-être rapprocher ces deux voies. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qui se passe. Et pour l'instant, même du point de vue institutionnel, la philosophie juive, elle est dans Marchevet Israël avec la Kabbale, et la philosophie générale est à part. La seule université qui a tenté de les rapprocher, de rapprocher à la fois la philosophie juive et la philosophie générale, c'est Bar-Ilan, par l'intermédiaire d'Amado. Mais une fois qu'Amado a fini son travail là-bas, Avisagui est venu et a dit non, on doit se mettre au diapason de toutes les autres universités et on doit séparer philosophie générale et philosophie juive, parce que la philosophie juive serait pour eux Mukhtse Mehamat Mi'os.
Monsieur Evelyn, ensuite Avishai, ensuite David, c'est bon.
Le dernier moment de cette réunion souffre de la maladie générale de l'intelligentsia occidentale qui concentre tous ses efforts sur les idées, le verbe, les livres, ce qui s'enseigne, ce qui se dit, ce qui s'écrit. Or, les Pirkei Avot disent, 1, 2, chapitre 1, Mishnah 2, « Ashoshalavarim ha'olamomed, à la Torah, à la Voda, à l'Humius Chassadim. » Le monde repose sur trois piliers. Je traduis en langage moderne ou en langage de Durkheim qui a repris cette trilogie. Le monde repose sur des mythes, des rites et des tribus. Or, ces développements que je viens d'entendre font complètement de silence sur les rites. Quand on me demande est-ce que les Israéliens sont religieux quand ils sont juifs, puisqu'ils ne le sont pas tous, je dis quelle est votre question. Si vous voulez savoir qui va à la synagogue le samedi matin, on admet généralement que ça tourne autour de 15% de ceux qui sont indiscutablement juifs. Mais si on demande qui fait un repas rituel le soir du Seder de Pessah, la réponse est 85%. On ne va pas forcément lire la Haggadah, on ne va pas forcément manger de la matzah, ou peut-être pas seulement de la matzah, avec aussi du pain levé, mais de toute façon, on se réunit. Et quand un Israélien a un fils, dans quelle proportion lui applique-t-il la Brit Mila? Réponse 100%.
Plus maintenant.
Plus maintenant
ouais. Plus en maintenant, tout cas. Parce qu'il y a des voix qui se lèvent et qui disent, eh bien, il faudrait abolir la Brit Mila. Ce sont des minorités. Il y a eu dernièrement des Russes qui, quand ils sont arrivés, ont accepté en tout cas de se faire circoncire. Et dernièrement, on les a interrogés et ils ont dit ben, je crois que nous avons fait une erreur de. Alors, pas tous, mais il y a cela.
Si c'était encore. Moi, je pensais aussi que la circoncision était la mitzvah qu'un juif qui est le plus éloigné de la tradition tient lorsqu'il a un enfant, un garçon mâle, et il le fait, quand il fait la bénédiction qu'il a appris, eh bien il le fait avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Mais en Israël, il semble qu'on voudrait réformer tout cela, comme il y a en Europe des gens, des juifs et des non-juifs qui disent non, comme il y a aux États-Unis des juifs et des non-juifs qui disent des tas de choses sur la circoncision en disant que c'est une mutilation. Donc voilà.
Je pense qu'un père juif ne peut pas supporter l'idée que le corps de son fils ne ressemblera pas au sien. C'est quand même une passion, une peur, quelque chose qui dépasse largement la zone. Indiscutablement religieux. Il me semble. La France était un pays catholique, oui et non. Vous abordez un village et de loin, vous voyez une seule chose qui émerge, le clocher. Il y a toutes les chances que cette église soit désaffectée, parce que les Français ne vont plus à l'église, même quand ils sont baptisés. Mais cette présence du clocher dans tous les villages de France est indiscutablement un signe de religion. Quel est le jour hebdomadaire de la semaine des chômés, le dimanche? Qu'est-ce qu'on célèbre comme fête? Pâques, la Pentecôte, Noël, etc. Il n'y a rien à faire, c'est les gestes. Descartes nous a complètement égarés. Il a dit « je pense donc je suis ». Moi, à observer la vie des institutions depuis un demi-siècle, je pense que c'est le contraire. Je suis donc je pense. Et je suis parce que je fais comme mes voisins, mes parents, les gens à qui je pense ressembler. Bon. J'ai beaucoup étudié un essai comme lui. Vous me mettez les yeux bandés dans une réunion technique de Citroën, de PSA, tantôt Peugeot, je sais en 3 minutes où je suis. Les mots ne sont pas les mêmes, le ton n'est pas le même. L'idée même de débattre est tout à fait différente. Ils ne le savent pas d'ailleurs. Ils le savent quand ils changent de boîte. Là, ils découvrent que c'est très curieux. Ici, on ne fait pas pareil.
Merci beaucoup, M. Révy. Alors, on va passer à Richard Zatrani.
Oui, merci beaucoup. Merci pour votre exposé où j'ai pas cessé d'apprendre des choses. Je connais pas du tout l'œuvre de Manitou et on m'a dit il faut que tu le lises. Je l'ai encore jamais lu, mais cette expression hébreu d'origine juive m'interpelle énormément et pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, vous dites qu'il y a une volonté de retour à un mythe juif, donc une mythologie. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est leur définition de la mythologie. Parce que, d'un point de vue anthropologique, éventuellement, mythologie, c'est soit le récit dramatique de la création dans lequel on insère sa propre, la situation de sa communauté, soit le récit de soi-même. Lévi-Strauss dit ça tout.
Le récit des origines.
Voilà, avec le récit de soi-même qui est lié au récit des origines, avec une teneur dramatique ou non. Mais bon, c'est lié à un narratif qui concerne une communauté, une tribu, et les sujets au sein de cette communauté. Et ce récit mythologique est de toute façon évolutif. Hein, enfin, il est rarement figé, il y a une plasticité de la mythologie, comme dirait Cassirer, qui est extrêmement importante et qui fait qu'elle persévère dans le temps, qu'elle a une forme de permanence. Donc ce qui est étrange, c'est de vouloir figer aussi ce mythe de l'hébreu quoi, dans le temps, comme si c'était quelque chose qui n'avait pas bougé, qui n'avait pas évolué, qui appartient à un temps des origines qui n'existe plus, dans lequel il faudrait revenir. Moi, ce que j'entends dans l'hébreu, dans la volonté de retourner à l'hébreu, c'est un individu qui est en passe de devenir juif. C'est comme si on se remettait dans une situation antérieure où on est disponible pour un devenir judaïque. Donc, s'il y a une évolution, quoi, parce qu'il y a une histoire, et comme les identités ne sont pas figées. Enfin, je ne sais pas s'ils ont pensé à cette possibilité-là. de l'évolution historique d'un départ mythologique. Je ne sais pas. Donc, enfin, il y a cette dimension qui m'interpelle. Ce qui, de toute façon, le problème des identités en général, c'est qu'on voudrait qu'elles soient figées alors qu'elles ne le sont pas. Et donc, quand ça arrive en politique, ça fait des conflits insolubles. C'est pour ça aussi que je me demande si la politique doit se charger de la question identitaire. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être séparé. Et juste une remarque sur la question de la post-sionisme, post-modernité. En vous entendant parler, je me disais qu'il y avait quelque chose de très triste dans la manière dont ils reprennent cette post-modernité à leur compte, qui est une forme de déni du judaïsme, du judaïsme de diaspora, et qui est un mouvement de renversement, c'est-à-dire finalement, on ne veut plus être juif parce que le juif, c'est celui qui a été soumis pendant deux millénaires, et donc on veut créer un nouvel être qui n'est plus soumis, et on rentre dans une forme de postmodernité. Parce que c'est vrai que la postmodernité, c'est une activité de déconstruction. C'est une activité de déconstruction pour éventuellement une reconstruction. Ça, on n'y est pas tout à fait encore, mais il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction. Or, ce qui s'est passé avec les juifs, c'est que la déconstruction est venue de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est eux qui ont été détruits. Donc, en fait, la postmodernité juive, elle devrait juste viser la restauration de ce qui a été détruit au lieu de prolonger ce mouvement de déconstruction qui apparaît illégitime là, de ce point de vue. Mais, enfin, voilà, c'est ce qui, c'est pas tellement des questions, c'est des remarques et des prolongements.
Je vous remercie pour ces remarques parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un interpréter ce concept de Ivri Mimotsa Yehudi de manière positive, en disant, eh bien d'accord, Ivri c'est le mythe des origines, ok, alors on va le prendre comme ce mythe des origines qui nous conduit à la judéité. Si c'était cela, je pense que on serait d'accord. À la fois les juifs religieux seront d'accord, à la fois on serait d'accord avec Manitou, et à la fois on peut réintégrer Ratoche aussi. D'accord ? Attendez. Je voudrais juste continuer. Or, c'est pas ce qui se passe. C'est que Ratoche dit, quand il dit « Je suis ou je veux créer un mouvement de Ivrim Tseirim », d'accord, il dit « Je veux en même temps rompre avec le judaïsme ». D'accord, c'est ça le grand problème. Et c'est pourquoi il faudrait maintenant peut-être, oui, réécrire l'histoire positive de ce concept-là. Et là, vous me donnez du travail. En tout cas, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut penser, et il faudrait essayer de réélaborer cette notion-là en disant que on revient peut-être au mythe des origines, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rompre. On doit faire peut-être une autre, on doit tracer une autre trajectoire, mais cette trajectoire doit nous mener à une nouvelle définition de la judéité ou de l'identité juive. La deuxième remarque que vous avez faite, elle est aussi extrêmement importante. Cette question de postmodernité, parce que ce qui se passe en Israël, c'est que on est dans l'ère des postes, d'accord, comme si on a oublié qu'il y a eu une émancipation, qu'il y a eu l'échec de l'émancipation individuelle, que il y a eu une émancipation collective, etc., etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a, ils tiennent à cette postmodernité, alors qu'ils sont, et ils savent pertinemment, comme vous l'avez dit, que la postmodernité déconstruit tout.
il n'y a plus de valeur qui tienne. Et pour eux, c'est le meilleur moyen de définir leur israélité. Et ça, c'est un grand problème. Parce que on a peut-être une voie. Moi, j'ai essayé, en tout cas, j'essaye d'enseigner et de transmettre cette voie-là. Quand on passe par la postmodernité, quand on a tout déconstruit, qu'est-ce qui peut rester ? L'humanisme, il n'en reste pas. Mais il reste l'humanisme de l'autre homme de Lévinas. Et ça, ils le comprennent, et ça, ils le veulent. Donc, voilà comment on peut, du point de vue positif, essayer de se mesurer à ce concept de postmodernité. Et pour le reste, il faut maintenant travailler pour faire comprendre cet hébreu d'origine juive dans la trajectoire qui est une trajectoire positive et non une trajectoire négative. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Juste dans l'ordre.
Merci pour votre exposé.
Alors, c'est David, c'est bon.
On est. Ouais. Ça donne. Bon, on est dans un bêta midrash, donc on peut se permettre, on doit même examiner la Havamina, quoi, comme on appelle ça traditionnellement. Là où j'arrive pas complètement à vous suivre, c'est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au bout du raisonnement ? C'est-à-dire, on dirait, vous constatez un divorce. Il y a un divorce entre deux formes d'identité qui ne veulent plus se rencontrer. Allons jusqu'au bout. Qu'est-ce qui nous empêche ? Quel est notre devoir de réconcilier ces identités ? Peut-être que ce constat en soi est une leçon de l'histoire. Elle est en train de nous dire, l'histoire, que... Encore une fois, on est dans un bêta midrash, on n'est pas dans un... Voilà. Peut-être que cette leçon de l'histoire, ça serait de dire, ok, très bien, eh ben, la forme qu'a pris l'État d'Israël comme porteur de l'identité juive, c'est mort, c'est fini. C'est terminé pour nous. À nous de reconstruire une identité juive à part, complètement distincte, et qui marcherait à côté, peut-être pas de manière conflictuelle, mais l'État d'Israël n'est plus capable de porter cette identité. Est-ce que ça serait impossible? Et pourquoi? Et si c'est impossible, pourquoi? Est-ce que parce qu'on a une croyance, je dirais, presque mythologique, de ce que doit être l'avenir de l'État d'Israël, et qu'on n'est pas capable de se départir de cela, ou y a-t-il une autre option? Je m'excuse, hein, c'est pas du tout une provocation, hein, c'est...
Merci beaucoup, David.
Mais d'abord parce que on a déjà vécu ça dans notre histoire. Dans l'histoire de l'Israël ancien, il y a eu deux royaumes. Il y a eu un royaume qui est devenu presque idolâtre, d'accord ? Et il y a les deux tribus de Juda et de Benjamin qui, eux, ont maintenu une identité juive. Donc, une partie du peuple a disparu à cause de cela. Est-ce que il faut développer le concept de Sheherit comme il est chez Rosenzweig ? Mais aujourd'hui, qui lit Rosenzweig ?
Ah, on a eu un séminaire il y a deux mois dessus.
D'accord. Pardon ? Oui, peut-être, non, plus que ça ? En Israël, je pense pas. En Israël, vous savez... Pardon ?
Il avait la réputation d'être antisémite.
Oui, bien entendu. Oui, et vous savez ce que dit Moses lorsqu'il est... Sholem lui a demandé sur quoi vous travaillez, et il lui a dit, eh bien, je travaille sur Rosenzweig. Il dit, ça n'intéresse personne ici. Donc,
votre prédécesseur Gutmann, qui enseignait quand même à l'université.
Oui, bien entendu, qu'il y avait Gutmann qui enseignait, mais. Vous parlez
des grands professeurs qu'il y avait à l'université hébraïque, Gutmann, Hugo Bergmann, Rothenstreich, c'était ceux qui ont formé aujourd'hui, je pense que il n'y a pas de relève. Aujourd'hui, c'est ce que je pense, mais peut-être que j'ai tort. Moi, la seule chose que je peux dire, en tout cas, en réponse à votre question, c'est vous avez peut-être le courage de dire, bon, essayons de poursuivre ce processus et de le mener jusqu'au bout. Mais peut-être que le prix à payer est trop grand.
C'est une des petites remarques et peut-être une question, mais entre-temps, il y a eu cette question. Donc, ma question est étayée aussi par la dernière. C'est aussi une remarque par rapport à ce qu'a dit Avishag. Cet être nouveau, cet être qui arrive en Israël. Enfin, Aaron Appelfeld en a beaucoup parlé dans l'histoire d'une vie. Il y a des chapitres entiers où lui-même parle de quand il arrive, on lui donne un nouveau nom, il faut qu'il se transforme complètement et il perd encore une fois son identité qui est sa langue maternelle qui était l'allemand. Et il retrouve d'une certaine façon une identité à travers Leib Rochman, Gershom Scholem, Agnon et il se familiarise avec le yiddish qu'il connaissait mais surtout avec la tradition, la chassidoute. Et il, d'une certaine façon, il passe par-dessus ses parents, ses grands-parents, et il se relie avec la langue à travers l'hébreu qu'il fait sien, et notamment la Bible, puisqu'il l'a réécrit et réécrit en permanence, au point que ça s'intègre complètement à lui. Donc c'est pas nouveau, on en a déjà parlé de ça. Vous avez dit, et ça a été étayé par ce qu'a dit monsieur, sur cette fracture et qu'il y aurait ce qu'on appelle le judaïsme français, l'école française, Neher, Gordine, ce que vous avez dit, qui aurait un rôle à jouer en Israël. Alors, est-ce que vous pourriez étayer ce que serait ce rôle? Quel est les particularismes liés à cette école française et notamment au niveau du Limoud, parce que qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui apporterait et qu'est-ce que vous pensez quand vous avez dit qu'il y a eu une responsabilité du monde orthodoxe, alors on va dire peut-être du monde des yeshivot, qu'est-ce que vous pensez de ça qui serait délétère dans cette absence de rapprochement, et donc pourquoi la façon de voir française serait différente et pourrait procéder à un trait d'union que je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire là-dessus, même si j'ai une petite idée, mais...
Alors, d'abord, concernant c'est vrai que il raconte sa métamorphose, comment à partir de l'hébreu il s'est reconstruit, et il avait d'abord une identité israélienne, hébraïque, disons kibboutznik, mais il dit aussi ce que vous n'avez pas cité, il dit l'hébreu m'a transformé parce que je croyais que c'était seulement une langue d'usage, une langue vernaculaire. Or, cette langue-là m'a conduit à des endroits où je ne voulais pas aller, où je ne pouvais pas aller, disons. C'est-à-dire, cette langue a un socle. Et ça, on le sait très bien. Même Scholem a changé depuis qu'il a écrit cette lettre qui devait faire partie du Festschrift pour Franz Rosenzweig
pour les 40 ans de Franz Rosenzweig, il a beaucoup changé parce qu'il est devenu un laïc à tout craint, et donc cette lettre n'a pas elle faisait part en tout cas de ses sentiments quand il est arrivé 3 ans plus tard en Israël, et donc il voyait comment cette langue a été subissait en tout cas la sécularisation qu'elle a subie. Ça c'est du point de vue de la langue. Maintenant, qu'est-ce que le judaïsme francophone ou français pourrait amener, et s'il peut amener quelque chose, bien, s'il peut amener quelque chose, c'est ce qu'il a constitué pendant après la Shoah, après la Deuxième Guerre mondiale, la manière dont il a modelé la personnalité du judaïsme français, ce qu'il a appelé l'école de Paris, d'accord. Si aujourd'hui en Israël on s'est précipité sur les lectures talmudiques de Lévinas, ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui on met Lévinas dans toutes les sauces à cause de cette notion d'altérité, ce n'est pas un hasard non plus, même si on essaye de, en tout cas moi pour ma part avec mes étudiants, j'essaye de leur donner la manière dont moi j'ai compris Lévinas, et voilà. Mais c'est pourquoi je dis on a besoin de renforts pour pouvoir à la fois diffuser cet humanisme hébraïque à la française, disons. Cette manière qu'avait même un homme comme Stéphane Moses, qui a dit qu'il y avait pour lui en tout cas deux modernités, une modernité normative et une modernité critique, et même si certains le mettent du côté de la modernité critique, il reconnaissait à la modernité normative celle justement des Lévinas, des Rosenzweig, des Hermann Cohen, etc. Il leur reconnaissait une manière de nourrir l'identité juive et de la laisser à la fois solide et à la fois ouverte de manière universelle. C'est là que nous, c'est ce que moi dans mon petit cercle j'essaye de transmettre, et c'est là que nous, ce que nous devons transmettre en tout cas ce que nous avons appris de ces maîtres prestigieux d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est cela, c'est tenir fermement en tout cas à la tradition juive, mais appeler ça une tradition ouverte. Je renvoie en tout cas à la manière dont Lévinas interprétait le concept Israël. Il disait ce n'est pas un concept qui est national, ethnique, c'est un concept qui est universel. Vous trouverez ça dans ses lectures talmudiques sur le messianisme et dans d'autres parties où il disait attention, c'est ce qu'il aurait appris, dit-il, de son maître Shushani. C'est ça qu'on essaye en tout cas de transmettre. Oui.
Si je peux me permettre, j'ai été intime de Lévinas pendant 30 ans parce que c'était mon voisin au comité parlementaire du colloque des intellectuels juifs de la langue française. Ça m'autorise à vous dire ce que la France peut apporter. on a essayé de monter des colonnes intellectuelles ailleurs. On n'y est pas arrivé, surtout en Israël. En Israël, selon la facture de la kippa, on se parle ou on ne se parle pas. Il y a des exceptions glorieuses, des villes à souligner, mais on ne peut pas habiter le même quartier que les gens qui s'habillent à part. Donc, au peuple intellectuel de langue française, celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas, dialoguer fraternellement. En particulier au comité de l'Arche, Rabbi, par exemple, était haineusement anti-religieux, était un de nos interlocuteurs pour un magistrat de surcroît, et qui, ses dialogues avec les gars, c'était savoureux. Par ailleurs, l'animateur du colloque était Jean Alberin. Son métier, c'était le responsable du service d'interprétariat de l'Union. C'est-à-dire qu'il avait affaire à toutes les langues de la terre. Mmh. Et je trouve que c'était un bon choix. Tu lui as donné ce rôle. Et alors, il est vite là. Au départ, il a ramassé un choix de l'autre. Donc, les Français sont capables de dialoguer. Je vous rappelle que le dialogue de Abélard et de son adversaire, ça ne m'en sait pas, se passait sur le parvis de Notre-Dame et qu'il faisait 500 km à cheval pour venir apporter la controverse. Parce que l'un se réclamait du latinisme ancien et l'autre de la modernité, avec un soupçon d'athéisme qui planait sur ce champ. Ça, ça se passe à Paris. À Paris, on dialogue entre des gens très différents et on s'écoute respectueusement. C'est très, 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 très rare cela.
Vous avez opposé les laïcs avec le monde orthodoxe en parlant de la modernité. Il me semble que quand même le spectre des religieux entre guillemets est plus large que les orthodoxes d'un côté et les laïcs de l'autre. Il y a d'autres courants, je ne parle pas des libéraux ni des réformés, mais il y a quand même
Ce que vous appelez autre chose, ce sont par exemple les kippot tsurugot ou bien ce qu'on appelle l'ancien parti national religieux, le mafdal ou bien...
Je ne sais pas parce que moi je connais des Israéliens religieux, enfin pratiquants, qui très pratiquants et qui ne sont pas orthodoxes et qui disent, ils m'ont l'air très nombreux parce que j'ai déjà été, je les ai côtoyés, et je ne sais pas à quel courant ils appartiennent, ils font Bollywood, j'ai l'impression.
Ah, mais ça n'empêche pas qu'ils étudient, il y a même des Batei Midrashot en Israël qui sont, des Batei Midrash qui sont laïcs. C'est-à-dire il y a des laïcs qui, aujourd'hui, essayent de comprendre une page de Gemara ou de...
Non, mais bien sûr, de toute façon, tout existe.
Même à Paris, hein, les Midrash laïcs.
C'est qu'il existe aussi des Israéliens qui ont l'air quand même dans ce trait d'union.
Alors, je ne sais pas s'ils ont l'air dans ce trait d'union. Quand je dis que les orthodoxes ont leur part de responsabilité, ils doivent, d'après moi, les orthodoxes doivent présenter un judaïsme qui n'est pas un judaïsme, qui ne soit pas un judaïsme fermé, qui ne soit pas un judaïsme, par exemple, une telle réunion que nous avons eue ici, dans un Beit HaMidrash à Paris, qui traite de personnes comme Ratosh, ou comme Yehuda Libes, ou comme d'autres, eh bien, je ne sais pas si on peut la voir dans un Beit HaMidrash en Israël.
Mais
parce que là il y a une ouverture, tandis que là-bas, eh bien, on nous dira, mais non, vous devez aller chercher ailleurs un local, ou vous devez, je ne sais pas trop quoi faire.
Je pense que même en France, c'est pas si nombreux que ça. Ouais.
Merci. Non, mais c'est possible, c'est la différence. C'est-à-dire qu'en Israël, peut-être qu'il y a des implications politiques derrière, parce que là, on est dans des luttes de pouvoir.
Oui, exactement. Oui. Exactement. Il y a toujours, toujours les implications politiques derrière.
Oui, parce que le dialogue en lui-même, il existe depuis longtemps. On voit par exemple entre Mendelssohn et Yaretz, entre Mendel et Mendelssohn, qui étaient complètement opposés, et le dialogue était bien présent entre eux. Et on voit aussi, par exemple, quelqu'un qui a tenté de relier justement ces deux extrémités, comme Rav Shimshon avec Hirsch, qui a eu un poids extraordinaire. On a l'impression que ça ne peut pas exister en Israël.
Bon, alors, Rav Hirsch a réussi à transmettre son message au niveau des écoles juives, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de communautés qui se réclament de Shimshon Raphaël Hirsch, parce que c'était un homme qui a fait énormément pour sa génération, celui qui a pris le flambeau en Israël et qui s'appelle Breuer, qui était un des membres de sa famille et qui a continué justement Torah im Derech Eretz, il a ajouté quelque chose, im Derech Eretz Israël. D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a une intervention? Je vous laisse dire le mot de la fin, François Benoît.
Non, j'ai pas de mot de la fin. C'est être présomptueux que d'avoir un mot de la fin.
Olivier. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Vanon, pour ce remarquable exposé et cette ouverture originale que vous avez offerte. Et donc, on se retrouvera la prochaine séance. On ne sait pas si on va faire juste avant Pessah ou faire juste après Pessah avec David. C'est bon, on a la chance d'avoir un grand ami Traham qui va nous faire un exposé. Tu peux nous dire le sujet? Vas-y, dis-nous le sujet.
Jeune et politique.
Jeune et politique, et donc ça rebondit sur le livre de David Traham.
Jeune,
oui. Donc ça rebondit sur les thématiques de David Traham, notamment. Merci beaucoup, Pourim Sameach.
Pourim Sameach, Gabriel. Thank you.